Alors, bienvenue à tous et merci d'être là. J'espère que ce soir, à la fin de la soirée, non seulement l'intervention, mais les groupes et la collation, j'espère que vous serez très très contents d'avoir pris le temps de passer à Interfac. Alors, est-ce qu'il vous arrive jamais d'avoir le discours suivant dans votre tête? Je sais intellectuellement que Dieu m'a sauvé, mais dans mon ressenti, je ne suis pas vraiment sûr. J'ai l'impression parfois que Dieu est content avec moi, et parfois j'ai l'impression que Dieu est fâché contre moi. J'ai l'impression des fois que, en fait, Dieu et moi, on est très proches, et par d'autres moments, j'ai l'impression que Dieu est très loin de moi, très distant. Donc, dans ma tête, je sais intellectuellement que je suis pardonné, mais en fait, dans mes émotions, dans mon ressenti, ça change tout le temps. Alors, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez jamais cette expérience? D'accord, merci. Alors, peut-être c'est pas exactement cela. Peut-être vous n'avez jamais vraiment connu le pardon de Dieu. Peut-être c'est que vous avez essayé, vous voulez la paix avec Dieu. Et vous avez essayé beaucoup de trucs, mais vous n'avez jamais trouvé la paix avec Dieu. Comme la brume, c'est impossible de mettre la main dessus. Enfin, peut-être votre cas est tout autre. Peut-être vous vous dites, pour moi, le message chrétien est tout simplement pas crédible. Cette idée qu'un innocent meurt à la place des injustes, face à un Dieu en colère, c'est barbare. C'est une forme très primitive de religion que les sociétés modernes abandonnent. On ne veut plus de ça. On pourrait même dire que c'est de la maltraitance divine que Dieu tuerait son propre enfant. Je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de discours. Ce n'est pas un Dieu d'amour, ça. Et donc, vous pensez que la foi chrétienne est plutôt à rejeter ou à mettre des gros points d'interrogation dessus. Alors, si vous vous retrouvez dans un de ces trois cas, j'aimerais bien dire que le texte que nous venons d'entendre est très, très, très important pour vous et pour moi. Je voudrais signaler maintenant que à la fin de mon message, je vais inviter, je vais proposer une prière que vous pouvez faire la sienne si vous voulez. C'est pas quelque chose qu'on fait très souvent à Interfac, en fait c'est très rarement qu'on fait cela, mais c'est pour ça que je voulais le dire à l'avance, et c'est vraiment si vous voulez rétablir la relation avec Dieu, je vais proposer une prière que vous pourriez faire la sienne à ce moment-là, ou peut-être en prenant ses idées pour faire la sienne après, plus tard. Il me semble que c'est juste très logique, étant donné le texte que nous regardons ce soir, et étant donné tout ce qu'on a vu jusqu'ici, si vous voulez faire ce pas avec Dieu, je ne voulais pas vous empêcher de le faire. Alors, rentrons dans le texte. Comme souvent est le cas, il y a quand même un peu de sandwich dans ce texte. Les versets 1 à 4 parlent des sacrifices inefficaces. Les versets 10 à 18 parlent du sacrifice efficace de Jésus. Et ce sont les versets tout au milieu, les versets 5 à 10, en fait, qui nous aident à voir pourquoi le sacrifice de Jésus est efficace, alors que quelle est la différence, quoi, entre les sacrifices des animaux et le sacrifice de Jésus? Ah, J'ai besoin de quelque chose dans mon sac. C'est bon. Alors, tout d'abord, on commence avec les versets 1 à 4, les sacrifices inefficaces. Pourquoi inefficaces? Ben, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu dans les deux chapitres précédents. C'est parce qu'ils sont une ombre et non la réalité. Les sacrifices sont une ombre et non la réalité. Et j'aimerais bien faire une expérience avec vous. Et je dois dire, par le passé, cette expérience marchait beaucoup plus facilement parce que par le passé, on avait des rétroprojecteurs et donc j'avais une source lumière où je pourrais cacher la réalité. Donc vous voyez la réalité, mais vous ne le voyez pas. Hein? Tout ce que vous voyez, c'est l'ombre. C'est très intéressant, ça bouge. Ben, désolé, on a fait quelque chose un peu comme ça, mais je vais aller un peu plus loin. Donc, et ce machin, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne l'ai jamais vu avant, mais voyons. Oh, incroyable, ça coupe. Incroyable. Ce machin-là est formidable. Donc, en fait, on apprend quelque chose en regardant l'ombre de la chose qui est représentée dans l'ombre. D'accord? Mais qui vient? Parce que je suis sûr, c'est magnifique ce machin. Ouais. Tu peux juste voir si l'ombre peut couper le papier. Allez. Mais attends, ça ne fait rien. Ça fait strictement rien. Les sacrifices étaient une ombre de la réalité. Et c'est pour ça que le verset 1 dit que, en fait, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient inefficaces. Je lis. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Alors, on a pu voir que les ciseaux coupent, ou peut couper en tout cas, mais pas le papier. Ça, c'est l'ombre du papier coupé par l'ombre des ciseaux. Qu'est-ce que l'ombre du système sacrificiel nous apprend? Ça nous apprend pas mal de choses, mais ces dernières semaines, on a vu que ce système sacrificiel était un système de représentation. Pour nous approcher de Dieu, en fait, il faut des représentants. Donc, c'était des sacrificateurs, des prêtres par lesquels on pourrait s'approcher de Dieu. Mais on a aussi appris que, d'autre part, que le système sacrificiel, c'était un système de substitution. Parce que il y avait des animaux qui mouraient, qu'on tuait, à la place du peuple juif. D'accord? Et on a vu le verset très très important la semaine dernière de Lévitique 17, verset 11. Je le relis. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Et donc, lorsque l'animal meurt, il meurt à la place de l'Israélite qui s'approche de Dieu. Il s'agit d'une vie contre une vie, ce qui nous laisse entendre que, en fait, il est difficile de nous approcher de Dieu. Il y a quelque chose de fondamental qui nous bloque, et c'est notre péché, c'est notre rejet de Dieu. C'est le fait qu'on est touché au plus profond de nous. On est des êtres magnifiques, on est à l'image de Dieu, et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de mentir et de faire toutes sortes de choses que nous cherchons à ne pas faire. Alors, Donc le système sacrificiel, c'était une ombre inefficace. Mais une deuxième chose que ces premiers quatre versets mettent en valeur, c'est qu'ils étaient inefficaces car on devait les répéter. Les sacrificateurs devraient offrir ces sacrifices de manière répétée. Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Ce qu'on a vu à la fin du verset 1. Et le verset 2 continue. « Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. » Et donc, le fait de répéter ces sacrifices faisait que, en fait, c'était un indice que ça ne marchait pas. Ça n'ôtait pas le péché. C'était inefficace pour ôter le péché. C'était inefficace pour amener le pécheur à la perfection et inefficace pour purifier la conscience des péchés. Comme dit le verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Mais s'ils étaient inefficaces, les sacrifices avaient une utilité quand même. On a déjà vu un peu cette utilité parce que ça nous montre que c'est un système de représentation, un système où il y a un substitut et un système où il y a de la distance entre nous et Dieu. Mais, et c'est effectivement cette troisième chose qui est mise en valeur au verset 3. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Et en fait, je viens d'apprendre qu'il y a un ami d'enfance à moi, il est diabète, dont les reins ne fonctionnent plus. Alors, il a perdu des petits doigts, vous savez, c'est pas sympa lorsque vos reins ne marchent plus. Et donc, chaque jour, s'il veut vivre, s'il veut continuer à vivre, il doit aller, ou peut-être c'est tous les deux jours, je suis pas sûr, mais en tout cas, de manière répétée, il doit faire la dialyse. Parce qu'il y a une machine qui remplace ses reins. Mais s'il ne fait pas ça, il va certainement mourir. C'est pas très très sympa de vivre comme ça, mais c'est un rappel quotidien du sérieux de sa condition. Vous voyez? Parce que c'est répété. Et le système sacrificiel, tous les jours il y avait des sacrifices. Tous les ans il y avait la fête des expiations. C'est un rappel du péché. Imaginons, vous êtes un Israélite pieux. Ou pieuse. Et pendant l'année, il y a de plus en plus de mensonges que vous avez dites à votre femme, à vos enfants, à vos copains, copines, et tout autre type de choses que, voilà, que la loi de Dieu condamnait. Mais la fête des expiations arrivait. Et lors de cette fête, le soulagement. Super! Et puis, le lendemain, tu commences à pécher encore. Et peu à peu, ça s'accumule. Et enfin arrive la prochaine fête des expiations. Vous voyez, c'est la répétition de cette fête, de ce sacrifice, c'est un rappel qu'on est pécheur. Qu'ils étaient pécheurs. Qu'il y avait de la distance entre nous et Dieu. Et qu'il fallait la mort pour rétablir, pour faire un rapprochement entre lui et nous. Alors, j'aimerais bien dire que, voilà, ce système était inefficace. Et tout système religieux de nos jours qui implique une répétition pour s'approcher de Dieu est tout aussi inefficace. C'est pas seulement la religion juive qui a cette inefficacité. Et donc, si dans votre approche vis-à-vis de Dieu, vous faites des choses et vous comptez sur des choses que vous répétez pour vous rapprocher de Dieu, je peux garantir, vous n'aurez pas une bonne conscience devant Dieu. J'ai expliqué la semaine dernière comment la lecture quotidienne de la Bible était une chose répétée sur laquelle je comptais pour me rapprocher de Dieu. Si vous comptez sur des choses répétées, ça peut être, donc, ça peut concerner des gens protestants, hein, comme moi. Ça peut concerner des gens d'arrière-plan catholique, parce qu'il y a la confession qu'il faut répéter. Il y a l'Eucharistie qu'il faut répéter pour s'approcher de Dieu. Mais ce qui arrive, c'est que on devient conscient de ses péchés et du fait qu'il faut répéter le truc pour enfin se rapprocher de Dieu. Et donc j'ai dit, est-ce que vous allez comme ça dans votre... Quelque part, intellectuellement, vous savez que Jésus est mort pour vous. Mais pourquoi faites-vous ça? Moi, je vois deux raisons. Une des raisons, c'est que vos émotions faites ça. Et vous collez, en fait, votre relation de Dieu sur vos émotions. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Non, c'est pas une bonne chose à faire. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est que, en fait, vous vous appuyez sur quelque chose de supplémentaire à part Jésus, comme moi je faisais avec le culte personnel, avec la lecture biblique. Et donc, des fois, vous faites cette chose très très bien, super, Dieu est mon pote. Et puis, par moment, eh bien, j'ai vraiment échoué à faire cette chose-là. Je ne sais pas quelle est la chose. C'est peut-être la louange le dimanche. C'est peut-être le jeûne. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça peut aussi expliquer pourquoi vous ferez ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir, on va venir à la solution tout à l'heure. Donc si vous vous appuyez sur des choses qu'il faut répéter, vous n'aurez jamais la conscience nette et soulagée devant Dieu. Mais vous pouvez l'avoir, et c'est ce qu'on va voir. Donc, au verset 4, l'auteur résume l'inefficacité du système de l'Ancien Testament, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors, cette conclusion me fait poser une question. Qu'est-ce qui fait la différence entre les sacrifices de l'Ancien Testament, inefficaces, et le sacrifice de Jésus, qu'on a déjà vu la semaine dernière, et efficace, qui donne une rédemption éternelle? Quelle est la différence? Et en quelque sorte, on l'a frôlé un peu, hein, on l'a frôlé, enfin, il y a plusieurs réponses, mais je pense la chose la plus importante. On a la réponse dans les versets 5 à 10. Et là, j'espère que vous n'allez pas le rater. L'efficacité est due à une personne unique. Une personne unique. Alors, pendant de longues années, moi, avec ma conscience tendre, je lisais ce chapitre. Hein. J'ai lu des trucs qui étaient très intéressants. Mais j'arrivais pas à comprendre les versets 5 à 10. J'arrivais au verset 4 et je sautais jusqu'au verset 10 et puis je disais, waouh, c'est super. Mais pour vraiment comprendre le passage, il faut comprendre les versets 5 à 10. Et c'est là où est la clé sur l'efficacité de la mort de Jésus. L'auteur reprend des thèmes qu'il a déjà bien développés plus tôt dans l'épître. Mais ici, il leur donne tout leur sens. Je lis les versets 5 à 7. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, et là, il cite le psaume 40. Le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Ça vous fait rappeler un peu le système sacrificiel? C'est pas ça qui va contenter Dieu. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Incroyable, ce psaume. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Très, très intéressant. Alors, tout d'abord, ben, cinq choses. Premièrement, les mots de liaison au verset 5, c'est pourquoi, indique que ce qui suit est une preuve supplémentaire de l'inefficacité du système de sacrifice de l'Ancien Testament. Et on le voit, Dieu n'agrée pas ces holocaustes, ces sacrifices. Et c'est confirmé au verset 8 où il dit, d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Mais, deuxième point, ces mots « c'est pourquoi » par ailleurs, introduisent le pourquoi de l'efficacité du sacrifice de Jésus. Là, on quitte l'ombre pour fixer les yeux sur la réalité. Troisième point, l'auteur évoque la divinité de Jésus en faisant référence à sa préexistence. D'accord ? Verset 5, c'est pourquoi en entrant dans le monde, ça veut dire qu'il existait déjà avant qu'il entre dans le monde. Ça va ? Et en fait, il a drôlement travaillé cet aspect de la présentation de Jésus, notamment au chapitre 1. La divinité de Jésus est mise en valeur au chapitre 1 de Hébreux, et aussi, je pense, au chapitre 7. Jésus n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que le Fils éternel de Dieu. Il est l'expression même de son être. Quatrième point, l'auteur évoque, d'autre part, dans cette citation, l'humanité de Jésus, en parlant de son entrée dans le monde. Et lorsqu'il dit, « Mais tu m'as formé un corps », donc il est entré dans le monde et Dieu lui a formé un corps. Il reprend donc le grand thème du chapitre 2, où l'humanité de Jésus est mise en avant. D'accord ? Chapitre 1, divinité. Chapitre 2, l'humanité de Jésus. Et cinquième point, l'auteur évoque l'obéissance de Jésus au Père dans les mots « Voici, je viens pour faire ta volonté », les versets 7 et verset 9. C'est aussi un grand thème du chapitre 2, du chapitre 5, du chapitre 7 et du chapitre 9. L'Épître aux Hébreux souligne le caractère volontaire de la mort de Jésus. Donc, la chose qui se dégage dans cette citation, si on a les yeux pour les voir, est que ce n'est pas n'importe qui meurt, qui donne sa vie. C'est une personne unique. C'est à la fois le Fils de Dieu et à la fois un homme sans péché et parfait. Alors, en tant qu'homme, quel est l'intérêt de son humanité? En tant qu'homme, il est notre représentant parfait. C'est pour ça qu'il a pu se substituer à notre place et aussi être notre substitut. Mais nous pourrions faire la réflexion suivante. D'accord, en tant qu'homme, il aurait pu mourir pour un seul homme. D'accord, c'est logique. Si on veut sauver 36 000 hommes, il va falloir 36 000 Jésus, personnes innocentes. Mais vraisemblablement, ce n'est pas la conclusion que tire l'auteur aux Hébreux. La mort de Jésus est clairement efficace pour beaucoup de personnes. Un seul pour beaucoup. Pourquoi? J'aimerais bien suggérer que c'est à cause de la divinité de Jésus. La perfection du sacrifice vient non seulement de son humanité parfaite, mais de sa divinité parfaite. Ailleurs, il souligne la divinité de Jésus comme condition qui lui permet d'entrer dans le sein des saints, dans la réalité là où Dieu lui-même siège pour offrir son sacrifice. Mais ici, c'est l'efficacité du sacrifice qui est en question. La victime sacrificielle Jésus n'est pas un homme quelconque. Non seulement est-il innocent, mais il y est aussi le Fils éternel de Dieu. Un théologien a résumé l'importance, voilà, la chose dans ces termes-là. La valeur du sacrifice du Christ consiste dans la valeur infinie de sa personne. La valeur du sacrifice du Christ consiste dans la valeur infinie de sa personne. Et donc, une personne peut mourir pour des milliers de personnes. Vous voyez? C'était pas juste un homme quelconque. C'était le Fils de Dieu. Et une personne peut mourir et purifier, nous purifier pour toujours, à cause de la valeur de sa personne. Ces versets nous aident aussi à répondre à la question de maltraitance d'un enfant divin, aussi bien que la barbarie. En fait, cette charge-là est risible. Ces charges sont risibles. Avec la maltraitance des enfants, il s'agit des gens majeurs qui maltraitent des mineurs, qui ne sont pas, qui n'ont pas l'âge de dire non, qui ne savent pas en fait pourquoi on les bat, pourquoi on veut voir leur zizi ou je ne sais pas quoi. Mais c'est affreux, je suis désolé. C'est affreux. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a bien dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est ici la même chose. J'entre dans le monde pour faire ta volonté. Il s'agit nullement d'un cas de maltraitance d'enfants divins, divines. Alors, parfois lorsqu'on met deux choses ensemble, le résultat est très très puissant. Je ne sais pas si dans vos expériences de chimie au collège, vous avez fait cette expérience, et peut-être il y a des garçons, peut-être des filles aussi ici, qui ont beaucoup aimé rajouter du sodium avec de l'eau. Vous vous rappelez de ces expériences-là? Impressionnant. Et est-ce qu'il y a des garçons qui ont essayé de voler un peu de sodium pour refaire l'expérience après? Peut-être. Mais la puissance de l'efficacité du sacrifice de Jésus vient parce qu'il y a deux choses qui sont mises ensemble dans une personne, sa divinité éternelle et son humanité. D'accord? C'est explosif. C'est efficace. Alors, si au verset 5 à 10, l'auteur donne la raison pour l'efficacité totale du sacrifice de Jésus, au verset 10 à 18, il présente en quoi consiste cette efficacité. Et donc, c'est un sacrifice unique et efficace. Alors que l'ancien système était inefficace, la réalité est efficace à 100% pour nous rendre parfaits devant Dieu. Alors l'auteur applique les mêmes tests ou le même test empirique qu'il a appliqué au système de l'Ancien Testament. L'efficacité du sacrifice de Jésus se base sur le caractère unique du sacrifice. Est-ce que vous voyez plusieurs fois, on l'a vu la semaine dernière, mais on le voit dans ce passage, que Jésus a offert son sacrifice une fois pour toutes. Un sacrifice unique. Verset 10, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11, tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices, ça c'est l'Ancien Testament, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Je pense que ça, c'est un deuxième indice. Lorsqu'on termine son boulot le soir, qu'est-ce qu'on fait? On rentre et on s'assoit et on regarde la télé. Je pense que Jésus ne regarde pas la télé, mais admettons, ben, il faut vous relever le jour, le lendemain, pour aller au boulot. Mais Jésus, est-ce qu'il s'est relevé? Il s'est assis. Le boulot est terminé. Alors, un exemple tout à fait français. On a une grève là. C'est pas pour tout le monde, mais là, c'est pour les usagers du RER A. Levez la main. Ouais, on est plus... Waouh! Et vous êtes là! Vous avez envie de venir ce soir. Je suis impressionné. Oh là là! Mais, imaginons. Alors, on sait tous aussi que les grèves, ça commence à la rentrée. Et il y a la rentrée sociale. Hein? Mais imaginons que... Alors c'est déjà grillé pour cette année, mais à la rentrée prochaine, qu'il y a vraiment la grève des grèves, la mère des grèves, je ne sais pas. Mais qui termine, en fait, on parvient à avoir une société parfaite en France. Et plus besoin d'avoir de grève. Vous pouvez l'imaginer? Moi non plus. Mais si jamais cela arrivait, ça serait la perfection. Ben, Jésus, il a offert son sacrifice une seule fois. Plus besoin de l'offrir de nouveau. Alors, il y a une conséquence clé qui découle directement du caractère une fois pour toutes et efficace du sacrifice de Jésus. C'est que ceux qui s'approchent de Dieu par le biais de Jésus sont rendus parfaits à perpétuité. C'est extraordinaire, ça. C'est, ouais. Alors, l'auteur emploie trois images pour parler de ce fait inouï. Au verset 10, il parle de la sanctification définitive. Au verset 14, il parle de la perfection à perpétuité, ou pour toujours. Et au verset 15 à 18, il parle du pardon définitif. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est pas que nous serons un jour sanctifiés, c'est que nous le sommes. C'est quelque chose qui est une réalité. D'accord? Si on a des doutes, verset 14. C'est par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Pour moi, c'est encore plus extraordinaire la manière de le dire. Rendu parfait vis-à-vis du péché, vis-à-vis de Dieu, à perpétuité. Or, celui qui est parfait n'a rien à craindre devant Dieu. Voyez-vous? Absolument rien à craindre. La troisième image employée est du pardon au verset 15 à 18. Et les versets 17 et 18 indiquent bien ce caractère définitif. Je lis. 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Un pardon définitif. Passé, présent, futur. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Et donc là, il boucle son argument. Alors, est-ce que vous voyez l'intérêt de ce passage? Si vous voyez dans ces deux cas, ces trois cas au début, que j'ai mentionné au début, est-ce que vous voyez l'intérêt de ce passage? Grâce au caractère unique du sacrifice de Jésus, donc une fois pour toutes, mais aussi sa personne unique, homme et Dieu, il nous rend parfait à perpétuité. C'est tout simplement extraordinaire. Est-ce que vous voyez, vous qui luttez avec une conscience qui n'est pas nette devant Dieu, qui est jamais à l'aise, en quoi ceci est une bonne nouvelle? Vous pouvez avoir la conscience pure devant Dieu. Vous n'êtes pas condamné à sombrer dans une déprime spirituelle perpétuelle, si c'est un peu votre expérience. Vous n'êtes pas condamné à ça. Mais comment? Vous avez tout simplement à fixer vos regards sur Jésus. C'est un peu la suite, en fait, ce que nous allons voir après les vacances. Mais, le verset 22, « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Approchons-nous de qui? De Jésus. Ou de Dieu par Jésus. Par son sacrifice. Si vous vous laissez regarder aux autres choses, donc vos cultes personnels, vos jeûnes, et toutes sortes de choses auxquelles vous regardez, vous n'allez jamais avoir le cœur net. Mais tant que vous fixez les yeux sur Jésus et sur son sacrifice parfait, vous aurez la conscience pure. Alors, j'ai dit que je vais proposer une prière. Ça peut être une prière que vous prierez si vous voulez reprendre avec Dieu ou refocaliser sur Jésus. Mais ça peut être aussi une prière que vous prierez pour la première fois parce que en entendant ces choses, vous vous dites, je veux ça. Je ne l'ai pas encore eu. Je veux ça. Et donc, les paroles, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis pécheur, que mon péché me sépare de toi. Je reconnais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour moi-même, pour moi-même m'en libérer. Je reconnais que c'est Jésus seul qui peut se charger de mes péchés pour me rendre parfait pour toujours devant toi. Je veux m'approcher de toi dorénavant, m'appuyant seulement sur Jésus. Je te demande de m'accorder ton pardon définitif. Je te remercie d'avoir ouvert ce chemin parfait pour m'approcher de toi avec une confiance parfaite. Alors, si vous voulez, vous pouvez prier cette prière silencieusement dans votre cœur. Si vous ne le ressentez pas, vous n'êtes pas obligé de prier avec moi. D'accord? Parce que le verset 22 dit de le faire avec un cœur sincère. Donc je veux que personne dans cette salle prie cette prière si vous ne pouvez pas le prier avec un cœur sincère. Donc prions cette prière. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez les garder ouverts. Enfin, vous pouvez les garder ouverts pour lire, sinon. Bonne idée. Je vais lire et puis je vais laisser une pause pour que vous puissiez le dire dans votre cœur. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que mon péché me sépare de toi. Je reconnais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour moi-même m'en libérer. Je reconnais que c'est Jésus seul qui peut se charger de mes péchés pour me rendre parfait pour toujours devant toi. Je veux m'approcher de toi dorénavant, m'appuyant seulement sur Jésus. Je te demande de m'accorder ton pardon définitif. Et je te remercie d'avoir ouvert ce chemin parfait pour m'approcher de toi avec une confiance parfaite. Amen. J'aimerais juste terminer en disant que si vous avez prié cette prière, Dieu vous a entendu. Parce que Jésus est là pour vous entendre. Et si c'est la première fois que vous avez prié cette prière, je voudrais juste le redire. Dieu a entendu cette prière. Et vous êtes parfait devant lui. Si vous avez dit cette prière avec sincérité. Et si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à le dire à quelqu'un ce soir, peut-être à moi, peut-être à Libby, à Thomas, à Déborah, ou à quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelque chose de précieux. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être dit.